L'œil du tigre. Après nous avoir lu,
vous allez nous écouter. Cette émission radio vous est présentée par la classe PEM du lycée Clémenceau de Chantonnay.
Bonjour, c'est Luc.
Elena, bienvenue dans l'émission L'œil du tigre. Aujourd'hui, on a eu envie de faire une émission sur l'actualité positive.
Nous les jeunes, en avons marre des informations négatives qui passent. Alors nous avons décidé de vous donner le sourire. Au sommaire de cette émission.
La libération de la parole grâce à MeToo.
La médiatisation des sports féminins.
La dépollution de la Seine pour les JO.
Le béton écologique.
Les animaux qui ne sont plus en voie d'extinction.
Les bienfaits de la chasse, de la nourriture et des jeux vidéo.
Le développement numérique.
Et pour finir, les sorties.
Bonjour à toi Camille. Tu es là pour nous parler de la libération de la parole des femmes grâce au mouvement MeToo.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous montrer en quoi le phénomène MeToo a-t-il sa part de positivité dans la société. La parole des victimes d'abus, qu'elles soient connues ou méconnues, est plus libérée que jamais. Le hashtag MeToo, bien implanté aux États-Unis à la suite de l'affaire Weinstein, débarque sur le réseau français sous le nom du hashtag Balance ton porc. Suite à un tweet posté sur X, anciennement Twitter, par le youtubeur Squeezie, le 6 août 2018, dénonçant le comportement malsain de ses collègues youtubeurs envers leurs fans. Ce tweet a fait un véritable boom à travers les générations, notamment la génération Z qui est très attachée aux réseaux sociaux. Très vite, de nombreux noms sortiront de la bouche des victimes comme étant des personnes ayant abusé de leur notoriété. C'est le début de ce phénomène qui marquera toutes les générations et toute la France. Cependant, un problème majeur est apparu suite à ce mouvement. Des victimes qui ne sont finalement pas soutenues par les autorités ou l'État qui ne cherche même pas à supprimer les comptes de ces célébrités accusées, mais au contraire qui vont les soutenir, comme notamment le président Emmanuel Macron qui a maintenu son avis concernant l'acteur Gérard Depardieu suite à ce scandale diffusé à la télévision lors d'une émission sur le voyage en Corée de l'acteur. Mais les internautes n'en restent pas là. Un deuxième phénomène fait surface, celui du cancel, qui consiste à bloquer l'artiste et à l'ignorer par la suite. C'est un phénomène très répandu sur les plateformes YouTube et TikTok, et nous pouvons voir à travers ce phénomène une sorte de démocratie d'Internet qu'ont créé eux-mêmes les internautes au vu du manque de rapidité de l'État à agir sur la situation.
Merci Camille. En parlant de la libération de la parole des femmes, penchons-nous sur la représentation du sport féminin dans les médias.
Merci Luc. En effet, autrefois largement sous-représentés dans les médias, les sports féminins bénéficient désormais d'une plus grande visibilité et d'une meilleure couverture médiatique.
La médiatisation des sports féminins, à une époque donnée, dépend de plusieurs facteurs, tels que la période, la culture, les normes sociales et l'évolution des médias. En général, on peut dire que par le passé, les sports féminins étaient souvent moins médiatisés que les sports masculins. Les compétitions et les performances des athlètes féminines étaient parfois reléguées à l'arrière-plan par rapport à celles des hommes. Cependant, au fil du temps, il y a eu des progrès dans la médiatisation des sports féminins. Les médias ont commencé à accorder plus d'attention aux exploits des athlètes féminines, mettant en lumière leurs performances et leurs réalisations. Pouvons-nous avoir quelques exemples, Alice ?
Des études et rapports du gouvernement ont montré une augmentation des heures de diffusion consacrées aux événements sportifs féminins à la télévision. 2350 heures en 2021 contre 1575 heures en 2018, soit une augmentation de 50%. Des événements sportifs féminins majeurs ont été médiatisés et les athlètes féminines ont gagné en visibilité. Chaque année depuis 2014, une opération de médiatisation du sport féminin est mise en place avec un objectif, encourager les chaînes de télé et les radios à diffuser des retransmissions sportives féminines et organiser des débats avec des sportives ou femmes dirigeantes d'institutions sportives. Par exemple, en 2019, la Coupe du monde féminine de football a bénéficié d'une forte exposition, notamment parce que cette compétition se déroulait en France.
Donner à voir du sport féminin, c'est à la fois valoriser l'engagement des sportives et donner envie aux autres et surtout aux jeunes. La médiatisation des sports féminins a donc évolué vers une plus grande visibilité, reconnaissance et valorisation des performances des athlètes féminines, contribuant ainsi à promouvoir l'égalité des sexes dans le domaine sportif.
Merci beaucoup Alice et Pauline. Restons sur le sport. Les JO 2024 à Paris arrivent à grands pas. Parlons de la dépollution de la Seine pour cet événement avec Cassandra, Naomi et Anna.
Bonjour à tous. On va donc vous parler du projet de nettoyage de la Seine pour les Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Anne Hidalgo, la maire de Paris, souhaite dépolluer la Seine pour la rendre propice à la baignade afin d'accueillir les athlètes des Jeux Olympiques. Pour ça, la mairie de Paris engage le SIAAP, qui est le service public de l'assainissement francilien pour équiper les stations d'épuration de filtres UV.
Son but est d'éliminer les bactéries afin de rendre les Jeux Olympiques plus responsables. Il y a moins de sites construits, donc moins d'infrastructures, moins d'équipements produits et moins de plastique à usage unique pour la restauration. Et enfin, à Austerlitz, un bassin de stockage est mis en place pour récupérer les eaux pluviales et les rendre pures de manière à accueillir les épreuves de triathlon sans risque. Puis, plus tard, permettre aux Parisiens de se baigner lors des grosses canicules.
Tous ces aménagements doivent respecter le budget de 1,4 milliard d'euros prévu à cette occasion. Malgré quelques critiques, cette dépollution permettra de développer la faune. Par exemple, plus de 31 espèces de poissons pourront vivre dans la Seine. Ce projet a des enjeux économiques et écologiques et durera sur le long terme avec un bon entretien. Mais ça, on le verra dans quelques années.
Merci les filles. Restons sur l'écologie et la dépollution et parlons avec Rony et Yona sur le béton écologique.
Pour vous, Yona et moi-même, Rony, nous vous avons dégoté une information solide, une information qui bétonne. Le monde entier est face au même constat, les émissions de CO2 sont trop importantes et la neutralité carbone semble encore loin. Des efforts restent à faire, et notamment dans le domaine de la construction, qui se hisse à la troisième place du bien triste classement des secteurs les plus pollueurs. Mais alors pourquoi ? Le béton, procédé de fabrication très énergivore, semble avoir son rôle à jouer. Produit manufacturé le plus vendu au monde, il n'en fallait pas plus pour qu'Hoffmann Green Technology développe une alternative plus verte et en plus vendéenne. Mais Hoffmann Green Technology, Kesako ?
Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green est un groupe d'entreprises qui conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés.
Une usine écologique ?
Hoffmann possède deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau, une usine 2.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025. Hoffmann s'adresse à l'ensemble des marchés du secteur de la construction, aussi bien en France qu'à l'international.
Une solution.
Afin de réduire l'émission de dioxyde de carbone dans le domaine du BTP, le groupe Hoffmann s'est lancé comme défi de fabriquer du ciment qui sera moins polluant lors de sa production. Il est décarboné, écologique et a été développé par les scientifiques.
Un objectif.
Réduire les émissions de carbone liées au processus de fabrication. Hoffmann a une empreinte de carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures aux ciments traditionnels. Alors pourquoi cette solution n'est-elle pas adoptée par tous les fous du béton ?
Il va sans dire que les innovations amènent des prix plus importants. Hoffmann annonce que son ciment est 30% plus cher qu'un ciment traditionnel.
Une différence modérée ?
Elle semble encore peser dans la balance. Ajoutez à cela des temps de séchage plus longs qui rendent certains ouvrages plus compliqués. Le cimentier n'a pas fini de convaincre, mais semble être sur la bonne pente, avec un carnet d'adresses rempli et des investissements de plus en plus importants en termes d'innovation. Hoffmann, une entreprise verte, innovante et vendéenne.
Cette rubrique touche à sa fin, mais avant de laisser la parole à nos chers présentateurs...
Sachez qu'en 2 minutes, 22 800 m3, soit 10 piscines olympiques de béton, se sont écoulées.
Merci les garçons pour vos arguments en béton. Avant de continuer, on vous propose une petite pause musicale avec Pidi et son morceau « Ça va aller ».
Nous sommes de retour dans l'émission Œil du Tigre et on accueille Antonin et Léa qui vont nous parler des animaux qui ne sont plus en voie d'extinction.
Depuis plusieurs années, on peut entendre que de nombreuses espèces sont en voie de disparition, voire éteintes. Mais certaines espèces sont en réalité bien moins en disparition qu'on ne le pense. C'est le cas du dernier Arados Pix, oiseau représenté dans les films Rio, est sorti en 2011 et 2014. D'après le site Mindmental, l'oiseau avait disparu de la nature il y a plusieurs années. Mais un projet de sauvetage international a été mis en place. Il a été financé par les films Rio qui ont sensibilisé les spectateurs à cette extinction. Les quelques oiseaux restant dans les cages de collectionneurs ont pu être sauvés et protégés. Aujourd'hui, une population d'Arados Pix a été relâchée dans la nature et cette espèce n'est plus en danger. Comme quoi, si on fait des efforts pour préserver la nature, on peut la sauver. Nous avons aussi la fondation WWF qui nous indique que le rhinocéros blanc n'est plus une espèce en danger. C'était une espèce menacée de disparition depuis plus de 10 ans à cause du braconnage.
Mais en 2023, c'est la première fois que leur nombre est remonté. Cela est notamment dû à l'organisation de défense de la nature African Parks qui a élaboré le plus grand projet d'élevage de rhinocéros. Il y a aujourd'hui environ 18 000 rhinocéros blancs dans le monde. L'espèce n'est donc plus en danger. D'autres espèces, au contraire, ne sont pas en voie de disparition, mais on a cru à leur extinction. D'après le site National Geographic, c'est ce qu'on appelle l'effet Roméo. Cela consiste à ce qu'une espèce soit considérée comme disparue, bien qu'elle ne le soit pas. Alors cela entraîne à la non-protection de cette espèce, et donc à sa disparition. C'est ce qui s'est passé pour l'échidné à l'ombec d'Atamboro. C'est un mammifère qui ressemble à un fourmilier, mélangé à une taupe et à un hérisson. L'échidné à l'ombec n'avait pas été aperçu depuis 1961, d'après le magazine Géo. Mais l'été dernier, en Indonésie, une équipe de chercheurs d'Oxford ont fait une expédition scientifique, supervisée par James Kempton. Ils ont redécouvert avec joie, dans la province de Papouasie, ce mammifère. Aujourd'hui, bien que cet animal soit classé en danger critique d'extinction, c'est une prouesse pour cette espèce qui va donc pouvoir être protégée et sortir de cette liste.
Merci à tous les deux. Il y a aussi des animaux que l'on peut considérer comme nuisibles. Dans ce cas-là, les chasseurs peuvent être un moyen d'y remédier. C'est ce que nous allons voir avec Raphaël.
Bonjour tout le monde, je vais vous présenter les bienfaits de la chasse. On entend souvent des critiques contre la chasse comme quoi les chasseurs tuent pour le plaisir. Mais la vérité est que la chasse est avant tout une nécessité et permet d'éviter la surpopulation des animaux sauvages et les dégâts qu'elle provoque par l'abattage sélectif du gibier tout en protégeant les êtres humains et les animaux des diverses maladies. Les chasseurs se font effectivement un grand plaisir à chasser, mais d'après la FDC de la Vendée, la chasse confère au milieu naturel français une valeur économique minimum de 2,9 milliards d'euros annuels, donc le plaisir n'est pas leur seul objectif. Les chasseurs prennent la responsabilité de prendre soin de la nature qui entoure nos villes pour que nous, les humains, puissions vivre ensemble avec les animaux sauvages. 8,2 millions d'euros des dégâts sont évités tous les ans du fait de l'engagement des chasseurs à s'occuper de la vie sauvage. Plus de la moitié du temps des chasseurs est consacré à s'occuper de la nature, ce qui équivaut au temps passé par le ministre en charge de l'environnement. Antonin et Léa viennent de parler de la protection des animaux. La chasse est utile pour les espèces qui se reproduisent très vite et font trop de dégâts pour les autres espèces et l'humain.
Merci à toi Raphaël. Passons au bienfait de la nourriture qui nous est présentée par Camille et Léa.
Aujourd'hui, nous allons nous demander si la nourriture peut nous rendre heureux. Qu'en penses-tu Léa ?
Tout d'abord, manger peut déclencher des émotions positives en nous. L'odeur ou même la vue de fraises, de petits pains fraîchement sortis du four ou d'un morceau de gâteau suffirait à nous procurer un sentiment de bonheur.
Surtout celui à ma mamie.
Ah oui, moi aussi. Les souvenirs que nous pouvons associer à un aliment particulier, comme la raclette après une journée de ski ou le rôti du dimanche de notre enfance, nous procurent généralement un sentiment de bien-être.
Tu sais que les vitamines et les sels minéraux sont les bases de notre bien-être ?
Ah bon ?
Oui, le corps a besoin de ces nutriments pour produire les hormones du bonheur.
Et toi, tu sais que parmi les neurotransmetteurs les plus connus, nous pouvons citer la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Ils agissent comme une drogue sur notre mental et donc sur nos émotions.
Mais notre corps n'est pas en mesure de produire lui-même tous les aliments nécessaires à la fabrication des hormones du bonheur.
Et comment pouvons-nous faire alors ?
J'y viens. Nous devons donc les lui apporter par la nourriture, et ce, en quantité suffisante. Pour cela, il nous faut donc une alimentation diversifiée et équilibrée.
Un grand nombre d'hormones du bonheur sont produites dans les cellules nerveuses de notre cerveau. Mais pas seulement. La sérotonine est produite à 95% dans les intestins. La connexion intestin-cerveau et la composition du microbiote intestinal sont donc également importantes pour notre équilibre psychologique.
Mais malgré tout ça, Léla, n'oublie pas qu'il faut aussi savoir bien manger pour avoir une alimentation saine.
Bah comment Camille ?
Il suffit de manger des fruits et des légumes. Nous pouvons aussi manger du gras, mais plus particulièrement le gras insaturé.
Mais dis-moi, c'est quoi le gras insaturé ?
Ce gras est une matière grasse indispensable pour le corps. Et se trouve dans les avocats, l'huile de colza, les noix, les noisettes, mais aussi le poisson gras. Donc, c'est bien de manger sain, mais ça l'est aussi en mangeant ce que l'on aime.
Merci beaucoup, Camille est là. Restons sur les bienfaits et parlons des bienfaits des jeux vidéo avec Kali.
Oui, les jeux vidéo ne nous ramollissent pas le cerveau, comme beaucoup de personnes le pensent. Les jeux vidéo ont plusieurs bienfaits. Selon une étude faite pour France Info, les jeux vidéo permettraient la lutte contre le vieillissement du cerveau ou même gagner en concentration avec le jeu Road Tour. Cela permettrait aussi de gagner en vitesse et parvenir plus facilement à basculer d'une tâche à une autre avec le jeu Assassin's Creed. Ça a aussi beaucoup démontré de bienfaits sur des personnes dépressives, comme avec le jeu Call of Duty. Mais aussi peuvent agir sur le dépassement des traumatismes pour les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, qui est le fait que certaines zones de la mémoire soient occupées, ce qui remplace des images violentes ou choquantes, comme avec le jeu Tetris. Ou encore pour aider la stimulation de la vue, comme avec le syndrome de l'œil paresseux, le fait que l'on n'ait qu'un œil qui voit et moins bien que l'autre, avec aussi ce même jeu Tetris. Les jeux vidéo peuvent aider les élèves dyslexiques à mieux lire et les élèves dyscalculiques à mieux compter. À la Paris Games Week 2023, des personnes âgées ont participé à un tournoi de bowling qui avait pour but de promouvoir le bien vieillir et le lien intergénérationnel sur la Wii. Pendant ce tournoi, une bonne ambiance a été ressentie par les équipes. Ce tournoi a été médiatisé sur Twitch. Pour terminer, j'ai une seule chose à vous dire, c'est de continuer à jouer aux jeux vidéo et que les jeux vidéo n'ont pas seulement des points négatifs comme avec les bienfaits que je viens de vous montrer.
Merci Kali. En parlant de jeux vidéo, restons sur la technologie et parlons du développement numérique.
Le numérique est présenté comme un outil dangereux et malveillant, mais propose de nombreux services qui nous facilitent la vie.
Notamment la communication, c'est l'aspect auquel les gens pensent le plus souvent lorsqu'ils réfléchissent à l'influence de la technologie sur notre société. Grâce à notre interconnexion constante, nous sommes capables de communiquer avec n'importe qui dans le monde en quelques secondes. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez appeler et envoyer des SMS à votre famille et à vos amis comme si vous étiez chez vous. Mais aussi l'accès à l'information, il est possible en quelques secondes de rechercher sur Google n'importe quelle question ou encore de visionner les informations en allumant simplement la télévision. Mais l'influence de la technologie sur l'accès à l'information ne s'arrête pas là. Le fait de pouvoir accéder simplement à l'information nous a également offert la possibilité d'élargir nos connaissances grâce aux cours en ligne, aux forums de discussion, à l'apprentissage virtuel, aux vidéos pédagogiques et bien plus encore.
Puis la gestion de l'argent. Étant donné que la carte de débit et de crédit nous change la vie, nous ne pensons peut-être pas aux technologies, mais elles ont fortement réduit notre dépendance aux espèces. À présent, nous disposons d'applications bancaires, du prélèvement automatique, d'outils de budgétisation, de conseils d'investissement, qui nous aident à améliorer notre gestion de l'argent et notre connaissance du marché financier. Mais aussi la motivation à faire du sport. La grande majorité des salles de sport proposent aujourd'hui des séances 100% en ligne, ce qui vous permet de faire du running, de la musculation et des entraînements de haute intensité où vous voulez et en toute autonomie. Et pour ceux qui ont un peu de place chez eux, la pandémie a vu les vélos d'appartement se multiplier chez les gens. Et enfin, à l'accès à la santé. Les technologies médicales sont montées en flèche ces dernières années, sous l'impulsion de la pandémie et des nouvelles recherches. Plutôt qu'aller chez le médecin, il est désormais possible de consulter à distance et de recevoir des courriers du médecin, des ordonnances, des dossiers médicaux et bien plus encore sur son ordinateur ou son téléphone. La numérisation de la médecine implique également que nos dossiers sont facilement accessibles, ce qui facilite la communication entre les différents prestataires.
Mais dis-moi Emilien, cette facilité d'accès aux informations ne serait-elle pas une source de danger ?
En effet, l'hyperconnexion nous pousse à divulguer beaucoup d'informations personnelles qui sont accessibles à tous et parfois mal protégées. Il faut donc prendre du recul et se défendre.
Merci à vous deux. Pour finir, nous allons parler des sorties, présentées par Louis et Léana.
La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
Stop, stop, Louis.
C'est quoi ?
On dit souvent de nous que nous passons nos journées renfermées chez nous, devant nos écrans. Mais en réalité, les adolescents ont besoin de sortir.
Évidemment, ils ont besoin de passer du temps avec leurs amis, de leur parler et de rire avec eux. La fête est une agréable occasion de prendre du temps, du plaisir et de se détendre. Les jeunes développent un grand nombre de compétences sociales durant ces moments. Ils peuvent faire de nouvelles connaissances, observer comment les autres se comportent et découvrir sous un autre angle à travers leur regard. Souvent, les adolescents aiment sortir sans rien faire de spécial ou simplement pour être avec leurs copains et bavarder. Selon une étude sur la revue du site Harris, en 2018, 39% des Français attendent de passer plus de moments avec leurs amis le week-end. En mai 2019, 72% déclarent sortir le soir au moins une fois par mois, dont 79% sont des 18-29 ans. 46% déclarent eux sortir le soir au moins une fois par semaine. Les personnes de 15 ans et plus consacrent deux fois plus de temps à recevoir ou sortir un jour de week-end.
Souvent, une question est posée. Mais à quel âge nous pouvons commencer à sortir ? L'âge à laquelle nous commençons à sortir dépend de chaque adolescent et de ses envies de sortir avec ses amis. Mais souvent, vers 14-16 ans, les ados sortent le soir avec leurs amis. Cela dépend aussi de l'avis des parents sur leur sortie. Leur point de vue aux parents n'est pas forcément toujours le même, mais en général, c'est celui de laisser sortir leurs enfants avec leurs amis tant qu'ils ont une certaine confiance envers eux. Il faut aussi qu'ils disent à leurs parents quand les adolescents sortent, où ils vont et en respectant une heure de retour. Les parents aiment bien connaître les amis avant de les laisser sortir ou au moins en avoir entendu parler. Tout ça signifie bien que sortir pour les jeunes est souvent vu pour quelque chose de positif. Pour les parents, ça l'est un peu moins, mais quand ils arrivent à créer une certaine confiance entre eux, tout cela devient possible.
Nous l'avions vu pendant la période du Covid qui a été très difficile à vivre pour les jeunes, que nous devions rester enfermés chez nous.
Beaucoup de jeunes sont tombés en dépression. Donc j'ai un conseil pour vous, sortez et faites la fête!
Mais avec modération!
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, en espérant que toutes ces informations positives vous ont fait sourire, en espérant vous revoir bientôt sur notre émission L'Œil du Tigre.
L'Œil du Tigre. Après nous avoir lus, vous allez nous écouter. Cette émission radio vous est présentée par la classe PEM du lycée Clémenceau de Chantonnay.